Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une poussée de bouton avant un événement important? Un rendez-vous pro, un date ou un événement que vous attendiez depuis longtemps? Si c'est le cas, je voudrais vous parler du sérum acide salicylique anti-imperfection de Caudalie, notre sponsor en ce moment. Ce sérum de la gamme Vinopure, c'est la solution naturelle des peaux à tendance acnéique qui améliore la qualité de votre peau avec deux fois moins de boutons dès une semaine. Le sérum combine un trio d'actifs puissants naturellement efficaces pour lutter contre les imperfections, acide salicylique, niacinamide et polyphénol. De quoi retrouver une peau plus belle et équilibrée au quotidien. Merci à Caudalie pour leur soutien et bonne écoute. J'ai grandi avec les récits de voyage de mon père. Aux États-Unis pendant un an, où il travaillait comme serveur et a écumé le pays du Canada au Mexique. En Inde, où il a mangé une glace d'un vendeur de rue le troisième jour et a été malade pendant les 3 mois qui ont suivi. Au Pakistan, où ma mère l'a accompagné parce qu'elle pensait qu'il allait lui demander sa main, et où elle a failli mourir, emportée par un torrent. Puis où elle a perdu la vue, car ses yeux étaient brûlés par la lumière sur les glaciers. Finalement, il n'y a pas eu de demande en mariage, elle est rentrée ravie. Et puis, il y a eu la Chine, où il a appris la chute du mur de Berlin par téléphone filaire sur un quai-de-gare. En Islande, où il a campé pendant 3 semaines sous la pluie, au Sultanat d'Oman, à Madagascar. Quand je suis devenue jeune adulte, je suis partie à mon tour 5 mois en Amérique du Sud avec ma petite sœur. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai failli ne pas y aller. J'étais au tout début de ma vie professionnelle, et je me suis dit que c'était le pire moment pour partir, que ce n'était pas bien raisonnable, qu'il fallait que je reste et que je cherche un travail. J'étais un peu tétanisée. Mais bon, je n'avais pas non plus laissé ma petite sœur partir toute seule, donc j'y suis allée. Mais sans cette « obligation », entre guillemets, je pense que je n'aurais pas eu le courage de franchir le pas. C'est étrange, et ce n'est pas bien glorieux, mais c'est comme ça. C'est sans doute pour ça que je suis aussi fascinée par l'histoire d'Apolline que vous allez entendre dans cet épisode. Parce que j'admire les personnes qui décident, envers les normes qui leur sont dictées explicitement ou implicitement, de faire ce qui est bon pour elles, tout simplement. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et un courage qu'on ne célèbre sans doute pas assez. Ça m'inspire de voir que d'autres modes de vie, d'autres choix sont possibles. Et surtout de voir des personnes faire ces choix avec détermination, et gaieté. Dans cet épisode de passage, un voyage, une histoire d'amour et une incroyable aventure au beau milieu du Pacifique. Apolline et Nano, au micro de Stéphanie Thomas. Je suis Louise Emerlet, bienvenue dans Passage.
Je suis marin, quelque part. Je connais un petit peu, je sais lire une carte, je sais prendre en main un bateau. Et ben maintenant, je continue, je vais y arriver. Et puis les choses se font comme ça et on arrive, on se réveille. On est dans son cockpit, tout seul, on entend les bruits du bateau. Il y a les dauphins qui sont là aussi. Il y a un arc-en-ciel magnifique, je passe en dessous, j'ai l'impression de passer une étape. C'est comme une porte qui s'ouvre à moi et là, je vois Tahiti, je vois Moréa, les dauphins qui m'accompagnent. Et là, je vis vraiment ce que c'est que la navigation en solitaire, même si c'est que une journée et une nuit de navigation au total. C'est génial, voilà. Et ça, ça devient ma vie. Je me rends compte que maintenant, ben, ma vie, c'est ça. Je m'appelle Apolline. Je suis normande, j'ai 35 ans. Je suis monitrice de plongée. Je plonge depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Donc la mer et le milieu marin, c'est vrai que je m'y sens bien. Après mes études, j'ai eu un manque, j'ai eu envie de prendre la mer vraiment réellement. Et c'est là que j'ai commencé à m'épanouir vraiment, à passer mon monitorat de plongée. Ensuite, suite à ça, j'ai découvert la mer. J'ai découvert la voile assez tard. J'avais 25 ans quand j'ai découvert la voile. Après, la voile, c'est particulier, c'est un autre domaine. Ça fait maintenant 10 ans que je navigue. J'ai découvert qu'on pouvait voyager en bateau, qu'on pouvait naviguer et qu'on pouvait en vivre aussi. Et j'avais énormément envie de voyager, de prendre l'air, de zapper un petit peu ces années d'études qui m'ont semblé longues. Donc j'avais vraiment envie de m'épanouir sur l'eau. Et là, je me suis dit, je ne vais pas faire comme tout le monde, prendre un billet d'avion, faire le tour du monde. Je vais apprendre à naviguer. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a appris. Donc j'ai appris avec lui à naviguer. Et il avait un bateau à l'époque. Donc je me suis fait la main sur donc, un bateau en aluminium. J'ai décidé de passer mon diplôme de matelot dans l'idée de partir, parce qu'on avait pour projet de partir donc à la voile, faire un tour du monde. On s'est dit, allez, on y va. Et on est parti, donc les Canaries, ensuite la transatlantique. Ensuite, j'ai continué aux Caraïbes à travailler sur les bateaux en tant qu'hôtesse, marin, cuisinier. Je ne connaissais rien à la cuisine, mais pour pouvoir embarquer sur les bateaux, je me suis dit, allez, j'improvise les menus et ça va bien se passer. Hop, donc je me suis fait 3 ans comme ça. Ensuite de mon travail de marin sur les catamarans, j'ai décidé de m'accorder une année de répit. Et là, je me suis lancée à faire du bateau stop, donc de la Martinique jusqu'à Tahiti, en passant par Panama, Galapagos, Marquise, toutes ces îles qui font un peu rêver. Je veux aller voir ça. Et puis la Polynésie, ça me résonnait en tant que plongeuse. J'avais envie d'aller voir là-bas un petit peu ce qui se passait sur l'eau et sous l'eau aussi. Arrivée en Polynésie, je suis tombée amoureuse de la culture. Donc là, j'avais plus vraiment envie de plonger. Finalement, j'avais plutôt envie de danser, chanter. Les gens m'ont vraiment touchée au cœur. C'est une culture particulière. Les gens m'ont apporté une certaine paix. Voilà, je me suis sentie tout de suite bien là-bas, une certaine paix intérieure. Et j'ai continué mon périple. J'ai continué jusqu'à Tahiti en bateau stop. J'ai découvert l'île de Pâques. Bon, là, j'y suis en avion. Aller en avion, à l'époque, il y avait une connexion Tahiti-île de Pâques en avion. Lors de ce premier voyage, j'ai rencontré Nano. Il y avait aussi sa famille. Et en fait, j'étais logée dans son quartier. Donc, je l'avais aperçu. On avait discuté, on avait parlé. Et il aime beaucoup parler. Mais il est déjà avec une autre femme, donc moi j'ose pas tellement l'approcher, quoi. C'est amical et sans ambiguïté. Donc j'ai eu le temps de bien découvrir l'île, bien faire la touriste comme on dit, mais j'ai essayé quand même d'aller au contact des gens. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas arriver avec mon appareil photo, prendre en photo les statues caractéristiques de l'île de Pâques, qu'on appelle les Moai. Je termine mon périple, je retourne aux Caraïbes, je refais une saison comme hôtesse, donc sur les catamarans, encore une fois, de charter, pour mettre des sous de côté. Et là, je décide de retourner en Polynésie, parce que vraiment, c'est là où je me sens le mieux. Et j'investis dans un bateau. Le bateau s'appelle Tétis, un bateau de 11,50 m, donc ça commence à être confortable, on va dire. Donc sur ce bateau, c'est une fresque, les anciens propriétaires avaient peint plein d'animaux, une baleine, une tortue, une raie-mantin, un requin. Et j'avais du mal à me décider quand même, parce que c'est quand même un tremplin hein, d'investir dans un bateau, et sans avoir jamais été capitaine d'un navire, là c'était ce qui allait se produire. Et ce qui m'a décidé, c'est que dans cette même journée, j'ai vu tous ces animaux. Il y avait les baleines, je les ai entendues dans la baie de Moréa, je vais plonger le matin en snorkeling, je vois la raie, le requin, la tortue, et il y avait 3 petites étoiles à l'avant, et la nuit je vois les 3 étoiles filantes. Et là, je me dis, ok, c'est bon, j'achète. Puis c'est vrai que l'île de Pâques, c'était la destination finalement la moins chère en partant de Tahiti. Et ça m'avait vraiment tellement plu, je me suis dit, allez, je me fais une excursion là-bas. Donc me voilà retournée à l'île de Pâques. Je loue un Airbnb au dernier moment, comme ça. J'ai tout réservé au dernier moment, une semaine avant de partir. Et je tombe chez Nano Hawa. Donc je réserve, à la base c'était une femme qui avait mis l'annonce sur internet. Il se trouve que je tombe chez Nano Hawa. Donc je percute que c'est la même personne. Sauf que j'arrive, tout est en désordre. En fait, ils s'étaient trompés dans les dates. Ils n'avaient pas prévu mon arrivée ce jour-là. Ils l'avaient prévu la semaine suivante. Donc tout était en bazar. Donc moi, je me retrouve devant la maison avec mes sacs. Je me dis, bon, où est-ce que je vais aller? Il me dit, t'inquiète pas, pas de problème. Je fais le ménage, tu reviens. Ça va être prêt en fin de journée. OK. Donc j'ai sa tante qui me prend sous son aile. On va sur la plage, on décortique quelques oursins. On pêche quelques petits poissons avec ses petits-fils. Et la journée passe comme ça. Et donc le soir, je retourne au logement. Et là, je le vois pas pendant au moins 4-5 jours puisqu'il avait tellement honte de m'accueillir chez lui. Que ce soit le bazar. Donc on s'est pas vu pendant 4-5 jours, mais après, voilà, on a commencé à se voir, se fréquenter, etc. C'est là qu'on s'est vraiment rencontrés et que tous nos projets se sont finalement vite installés. Voilà, tout de suite, on a vite voulu vivre quelque chose ensemble.
Je m'appelle Fernando Haoa Ridoroco, je suis né à l'île de Pâques, Chili. J'ai 41. Voy a contar mi historia en español. Apolín fue a vacacionar y se quedó en una de mis cabañas, que yo tengo cabaña en Rapa Nui. Y ahí nos conocimos y floreció algo hermoso. Pero ella, todo tiene un fin. Ella tuvo que volver a irse. Y cuando se fue, un tiempo después que se fue, empezamos a hablarnos y empezamos a planificar encontrarnos de vuelta para hacer un viaje juntos, para empezar algo juntos.
À un moment donné, il faut bien partir, donc à un moment donné, il faut quitter l'île de Pâques. Moi, j'avais prévu de rester un mois, j'ai mon bateau qui m'attend à Tahiti. Et on se dit que Nano me dit, le mois prochain, je viens. C'est à mon tour d'aller à Tahiti et puis on fera ça, on essaiera de faire ça tous les 2-3 mois. On essaiera de, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et voilà, jusqu'à ce qu'il puisse lâcher un peu son entreprise, la faire tourner toute seule et qu'il puisse me rejoindre sur le bateau. Et on se donne un an, on se dit allez, on se donne un an. Et dans un an, je viens, il me dit je te rejoins sur le bateau et là on se lance pour naviguer ensemble. Là, suite à ça, il y a la Tapatie qui est le festival de l'île de Pâques. Donc lui, il se doit d'être là au moment de la Tapatie pendant un mois. Ok. Et là, il me dit, ok, j'arrive, je prépare, je suis en train de réserver mon billet, mais il me dit, le problème, c'est qu'avec la Tapatie, les prix ont doublé. Donc on va peut-être attendre une semaine, ça va chuter. Et là, je vais pouvoir venir, ça sert à rien que j'arrive tout de suite, le prix est doublé, on attend, on patiente encore une semaine et j'arrive. Et là, ce qui se passe, c'est que le Covid arrive. Ça, on ne l'avait pas du tout prévu. Et ils arrêtent la connexion Tahiti-Île de Pâques, mais du jour au lendemain.
Todo el mundo se empezó a cerrar. Todos los países empezaron a cerrar. No pudimos viajar. Los aviones se cerraron también. Y nuestra historia se empezó a alargar. No había avión. Después había un avión del gobierno francés que fue a Rapa Nui a recoger gente de Francia. Y yo quería subirme, pero yo no pude. No pude porque yo no tenía pasaporte francés, nada. Entonces tuvimos que esperar.
Et alors là, a commencé une longue période, très 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 longue, interminable, où tous les jours, on a dû s'appeler, tous les jours, c'était des coups de fil. « Tu me manques, quand est-ce qu'on se voit ?» Bon, c'était pas très agréable. Ce qui me fait le plus de mal à ce moment-là, c'est me sentir prête. C'était la première fois qu'un homme, en fait, me donne envie de m'investir dans une vie de famille, une vie de couple. Et ce qui touche profondément, c'est de se sentir atteint l'âme en quelque sorte, t'as ton âme qui veut cette route-là et tu sens que quelque chose t'attire, c'est une énergie d'amour donc qui est très très forte et il y a quelque chose qui t'empêche de vivre ça. D'ailleurs, les mois passent, donc un mois, deux mois, trois mois, À Tahiti, ils réouvrent l'aéroport, mais l'île de Pâques, jamais ça réouvre, jamais, ça reste tout le temps fermé. Ça reste fermé entre Tahiti et l'île de Pâques, ça reste fermé, mais aussi entre l'île de Pâques et le Chili, parce qu'il faut savoir que l'île de Pâques, ça appartient au Chili. Donc ça reste fermé au Chili aussi. Donc ça veut dire que les habitants, les Pascouins, ils peuvent pas sortir de l'île, ils peuvent pas s'échapper, ou alors pour raison maladie grave, très très grave, et là ils sont évasanés à l'hôpital au Chili, mais c'est la seule raison finalement. Donc il y a des avions qui viennent pour eux toutes les semaines les ravitailler, mais pas du tout de transport de passagers, ni pour rentrer ni pour sortir. Et ça, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, et on n'a pas de date.
La isla se cerró por dos años por el tema del COVID. Mi gente le dio tanto miedo, en la isla dio tanto miedo que cerraron la isla, nadie podía acercarse en embarcación, nadie podía ir en avión, nada.
Et moi, j'ai, à un moment donné, je décide de me lancer à naviguer. Je me dis, je suis toute seule, j'ai mon bateau, là. En fait, j'ai jamais navigué toute seule. Donc voilà, c'est mon premier bateau. Et le but, c'est de le prendre en main déjà dans un premier temps. Je décide d'aller avec donc un ami, Sylvain, qui était mon instructeur de plongée au Glénan. Il m'accompagne jusqu'à Wahine. Donc Wahine, c'est une journée et demie de nav de Tahiti. Et là, on se fait une journée de navigation de nuit ensemble. Donc là, c'est pareil. Je prends confiance de plus en plus, mais je suis pas encore seule sur mon bateau. Et là, pendant ce temps-là, les semaines passent, les mois passent, toujours avec Nano, on s'appelle, etc., on se moque. Donc moi, je continue dans ma foulée, je rencontre un petit papy qui navigue, il s'appelle Norberto, et il me dit « Demain, je vais à Bora Bora, tu me suis ?» Hop, on se suit, on navigue, et on va à Bora Bora. Là, j'avais quelqu'un encore avec moi à bord. Et on revient de Bora Bora, on retourne à Raiatea, et là, Nano, ça va plus du tout, il supporte plus du tout que j'ai quelqu'un à bord. Donc là, je me dis, non, mais il faut vraiment que j'arrive à passer le cap et à naviguer toute seule, quoi. Il est jaloux complètement, donc jaloux au point qu'il veut même plus le parler, c'est mon anniversaire, il m'appelle même pas, donc je suis triste encore plus. Donc, donc c'est dur, ça devient dur, très dur pour tous les deux. Donc là, j'ai dit, ok, là, il faut passer une étape. Donc là, je décide de partir seule et je suis Norberto. C'est-à-dire qu'on part à deux bateaux. Lui, il est sur son bateau et on se suit. Donc là, on se dit, on est à Raiatea, on se dit, on va à Wahine. Wahine, c'est à côté. Normalement, c'est 4 heures de navigation. Sauf que ce jour-là, le vent, il est de face. Donc c'est double temps. Normalement, on met deux fois plus de temps. Et là, on se dit, on va pas arriver avant la tombée de la nuit à Wahine. Et là, je dis à Norberto, à la radio, je lui dis, écoute, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, quitte à passer la nuit en mer, on continue, puis on arrivera demain matin sur Tahiti. Donc, nous voilà partis, on enchaîne la nuit. Et là, je passe, du coup, ma première nuit en mer. Quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, être seule sous les étoiles, comme ça, seule sur son bateau, et je vois que ça se passe bien. Le bateau, je me rends compte que je commence à le prendre en main. Il y a tout qui fonctionne. À un moment donné, Norberto, je l'ai plus à la radio. Je le vois plus sur l'AIS, c'est-à-dire le petit curseur qui me permet de voir sur l'ordinateur où il est. Je le vois plus, il est plus présent. C'est pas grave, je continue et je me dis, de toute façon, je suis marin quelque part. Je connais un petit peu, je sais lire une carte, je sais prendre en main un bateau et maintenant je continue, je vais y arriver. Et puis les choses se font comme ça et on arrive, on se réveille. On est dans son cockpit, tout seul, on entend les bruits du bateau, il y a les dauphins qui sont là aussi. Il y a un arc-en-ciel magnifique, je passe en dessous, j'ai l'impression de passer une étape. C'est comme une porte qui s'ouvre à moi et là je vois Tahiti, je vois Moorea, les dauphins qui m'accompagnent. Et là, je vis vraiment ce que c'est que la navigation en solitaire. Même si c'est que une journée et une nuit de navigation au total, c'est génial. Voilà. Et ça devient ma vie. Je me rends compte que maintenant, ma vie, c'est ça. Donc moi, quand j'arrive à Tahiti, ce que j'ai envie, c'est retourner aux Marquises déjà. Le Covid, tout ça, Nano, c'est compliqué. Peut-être que si j'allais aux Marquises, si j'y arrivais, Ça me mettrait du baume au cœur, je me sentirais bien, je retrouverais les gens que j'avais rencontrés là-bas. Quand j'étais arrivée en bateau stop là-bas, ça me ferait du bien, je serais parmi eux. Il y a un club de plongée là-bas, je vais peut-être pouvoir y travailler. Donc, je me débrouille et là, je trouve un équipier quand même pour m'accompagner jusqu'aux Marquises. Parce que les Marquises, c'est loin, donc c'est au moins une semaine de navigation. Et nous voilà partis tous les deux là-bas. Alors avec Nano c'est compliqué, on se parle quasiment plus, là on a quasiment plus de coup de fil. C'est dur, c'est très dur. Mais c'est pas grave. Ma seule façon de continuer à encaisser tout ça et à me sentir bien, c'est de rejoindre ces îles-là, les îles Marquises. Donc on y va. On met 5 jours face au vent, mais alors avec une météo, avec ce qu'on appelle des grains, c'est-à-dire des gros nuages gris qui passent, il tombe de la pluie, le vent sous les nuages forcit, donc on a 30-35 nœuds de vent. J'arrive à Eyao, et là je me dis, bah ça y est, c'est fait, le défi il est relevé. Je suis arrivée aux Marquises, et là je commence à penser à Nano. Je me dis, bah, puisque j'ai réussi à naviguer jusqu'aux Marquises, peut-être que je pourrais aller plus loin encore. Tout est possible finalement. Et entre-temps, dès que j'ai eu la première connexion, bah en fait, Nano, il m'avait recontacté. Tout bêta, parce que finalement, quelque part, on était restés connectés, hein, et il voulait toujours, hein, notre projet, notre aventure, et je me dis, peut-être que je pourrais rejoindre Nano. Je commence à y penser, là, la petite graine commence à s'installer dans mon cerveau. Alors l'île de Pâques c'est très loin, c'est très éloigné, donc de Tahiti ça doit faire 2000 nautiques, donc en kilomètres 4000, quelque chose comme ça. On fait notre mouillage, donc on pose l'ancre, on va à terre, et j'étais toute contente donc d'aller retrouver ces gens-là que je connais, que j'avais pas vu depuis 4 ans maintenant déjà. Et je vais à la première maison du village, chez Rose et Frédéric. Ils ont un petit-fils qui s'appelle Monatini. Et Monatini, il est en train de jouer avec un jeu de cartes avec tous les monuments du monde. Je sais pas, les pyramides d'Égypte, le Christ là à Rio de Janeiro, c'est ça? Tous les monuments du monde. Et il me donne une carte, il m'en donne une, il me dit au hasard, il en tire une comme ça, je lui ai rien demandé, hein. Il me la donne, il me dit tiens c'est pour toi. Et j'avais mon équipier là à côté de moi, il regarde la scène et je regarde la carte et c'était les Moai de l'île de Pâques. Et alors là je me dis ah ok, donc c'est ça le signe, c'est ça la prochaine étape, tout de suite je comprends que c'est ma prochaine étape. Je me dis les Marquises c'est check, c'est fait, maintenant on est là, prochaine étape, et ben je me dis j'ai 3 mois pour préparer mon bateau. 3 mois c'est pas beaucoup pour préparer un bateau et pour aller dans ce genre de navigation là, et je me mets en tête de préparer mon bateau.
Se empezó a alargar, et después Pauline me dijo que tenía un plan, que había comprado un barco y que quería ir a buscarme en el barco. Ahí, en ese momento, tuve miedo de ella. Tuve harto miedo porque, a pesar de que nosotros no sabemos navegar, vivimos en una isla. Y en esa isla, el solo vivir en ella, todos sabemos cómo es ese mar. Todo el mundo de Rapa Nui sabe que ese mar es difícil, es peligroso, y ella lo quería hacer sola. Yo al principio ya le dije que no.
Je lui dis peut-être que je pourrais tenter d'aller te chercher. Et lui, ben commence à se mettre ça en tête aussi. Alors que quand j'étais encore à Tahiti, il me disait non, fais pas ça, c'est trop dangereux. Ben là, on se rend compte que c'est notre dernière chance. Les avions n'ouvrent toujours pas. Ça fait 6 mois que l'île est toujours fermée. 6 mois, donc 6 mois qu'on s'attend. Et c'est soit par la mer, on y arrive, ou soit ben on se dit que c'est fini ou qu'on se retrouve à un autre moment. Mais on peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et j'essaye de comprendre à travers les légendes qui disent aussi, les Marquisiens disent aussi qu'ils ont été, eux, peuplés l'île de Pâques. les Marquisiens se disent ancêtres des Rapa Nui, en fait, dans leur légende. Alors j'essaye d'avoir des infos, je leur dis, mais est-ce que vous avez des chansons, des histoires? Essayez de me dire un peu par quelle île vos ancêtres auraient pu passer, quelle direction ils auraient pu prendre, quel vent ils auraient pu prendre, à quelle saison ils auraient pu quitter l'île. En fait, il n'y a aucune info. Personne n'a jamais fait ce voyage-là. Donc je me lance dans un défi un petit peu fou. Je m'en rends bien compte, hein. Mais quelque part, je me dis, rien n'est impossible et si je tente pas ma chance, et ben, ma vie elle va rester comme ça. Je vais travailler, je vais avoir mon quotidien, mais je vais pas être proche de l'homme que j'aime finalement, avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Je vais devoir faire abstraction de ça et ça, pour nous, c'est dur. Donc, je tente ma chance. On est en novembre 2020. Et en novembre, ce qui se passe, c'est qu'en novembre, normalement, c'est connu pour que les vents du nord arrivent, qui est un petit peu, c'est-à-dire que les vents, ils sont toujours orientés est, mais ils tournent un petit peu nord-est. Donc ça permet de faire des navigations vers l'est. Je vais jouer cette carte-là. J'attends le mois de novembre. Et en fait, on est le 20. On est le 20 décembre. Et là, je me rends compte que la météo arrive, le vent du nord arrive. Il est en retard, le vent du nord. Il n'est pas venu en novembre, il est venu en décembre, mais il arrive le 20. Et on est le 20, et le vent, je vois la météo, je prends la météo. Et là, il y a un vent parfait, un vent du nord, nord-est, parfait. Et je calcule un peu, et je me dis, mais là, je pourrais faire cap direct sur Rapa Nui. Avec un vent comme ça, je gagnerais déjà la première semaine, je gagnerais de la distance, je ferais un super cap. Je vois ce qui se passe, et au pire, si j'y arrive pas, bah, je fais demi-tour. Et donc, je me décide à partir toute seule. Donc là, j'avais pas d'équipier. Hein. Là, je me décide à partir seule parce que l'île de Pâques est fermée. Et moi, je me lance, voilà, dans ce vaste océan. Et là, je vois des baleines. Je vois deux baleines énormes qui se mettent à sauter. Comme un bal, quoi. Hein. Elles sautent. Et waouh, c'est géant, c'est magique. Je continue et là, pendant 3 jours, j'ai un bon cap. Mais très vite, le vent faiblit de plus en plus, petit à petit. Et là, je me retrouve à passer Noël quasiment sans vent. Donc là, je sors une voile que j'avais jamais sortie encore. C'est un petit Jeanneker que j'avais fait réparer avant de partir. J'avais fait réviser toutes mes voiles. Et effectivement, elle me permet de continuer d'avancer avec ce tout petit peu de vent qu'il y a. Ça souffle un petit peu dans les voiles et ça avance. Donc je suis contente, j'arrive à utiliser cette voile-là que je connaissais pas. Donc pour moi, c'est encore quelque chose, une étape de plus, quelque chose que j'apprends en plus. Et je continue. Et là, plus du tout de vent. 24 décembre, je suis un peu déprimée. J'envoie des messages à Nano, il me dit courage, ça va aller, j'ai l'impression. Donc là, j'avoue que je perds un peu espoir. Puisqu'il n'y a plus de vent, à un moment donné, ben, il faut quand même avancer. Donc je me rends bien à l'évidence que je ne vais pas arriver en une étape à l'île de Pâques. Ça, je commence à prendre conscience. Donc je me dis, je vais me dérouter vers les Gambiers. Hein. Donc là, je me paye 3 jours de moteur pour arriver aux Gambiers. 9 jours, donc c'était la première fois que je naviguais autant de temps toute seule. Donc là, je me suis quand même fait quelques frayeurs sur cette navigation-là. Mais sinon, à part ça, ça va. J'ai quand même réussi moralement à remonter la pente. Je me dis, bah, au moins, j'arrive au Gambier, j'arrive quelque part. C'est déjà ça de fait, c'est une étape de fête. Peut-être que je pourrais y arriver quand même, tout n'est pas perdu. Et j'arrive au Gambier. Alors les Gambiers, c'est magique, hein. C'est là où on a les plus belles perles du Pacifique. Donc c'est un atoll avec plein de fermes perlières partout. Donc ça me plaît, mais c'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est aller à l'île de Pâques. Donc je me dis, je vais revenir là un autre moment. Je visiterai les Gambiers, je prendrai le temps de rencontrer les gens, les habitants des Gambiers à un autre moment. Mais là, il faut que j'avance. Et là, je me focalise, je me dis que j'ai fait 3 jours de moteur et qu'il faut que je recharge mon tank de gasoil. Il faut que je le remette à 100%. Il n'y a pas de station essence au Gambier. Il y a 2 magasins, c'est tout. Et il y a le mini minimum de choses, sinon c'est que des femmes perlières. Et en fait, il y a un bateau, le Tapolo, qui ravitaille en essence les habitants une fois toutes les 3 semaines. Et là, il venait juste de passer. Donc on me dit, ben, il faut que tu attendes le prochain Tapolo dans 3 semaines pour trouver ton essence. Il me faut absolument mon gasoil. Pendant une journée, je cherche. Et à un moment donné, je me dis, je vais aller à l'église. Tiens, je vais visiter l'église. Et je dis, il me faut du gasoil. Voilà, c'était ça ma prière, c'était il me faut du gasoil. Et là, je ressors de l'église et j'ai Julie qui m'appelle, qui me dit, hey, oh, toi là-bas, ça va? Tu t'appelles comment? Et elle était assise sur les marches de l'église. Alors qu'avant que j'y rentre, elle n'y était pas. J'y ressors, elle y est. Elle m'interpelle. Elle me demande qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je veux. Et je lui explique, voilà, je suis à la recherche de gasoil et parce que j'ai pour mission d'aller à Rapa Nui. Et là, elle me dit, mais bah, moi, je suis Rapa Nui. Mon ancêtre, mon arrière-grand-père était Rapa Nui. Et là, elle se donne pour mission de m'aider. Alors, elle appelle tous ses cousins sur l'île et tout. Et en 2 heures de temps, mon tank était plein. Il ne me reste plus que les papiers à faire à la gendarmerie. Parce que là, je vais quitter un territoire. Je quitte la Polynésie française, donc la France, pour aller au Chili. Donc, il faut que ce soit clair avec les douanes et avec la police. Par contre, c'est un risque que je prends aussi. Parce qu'une fois que j'ai quitté le territoire français, je suis obligée de toucher un territoire étranger avant de pouvoir revenir en France. C'est une obligation. Le 2 janvier, j'arrive à aller faire mes douanes de sortie. Donc, en gros, je reste 3 jours au Gambier, le temps de trouver mon essence, faire mes douanes de sortie. Et là, ben, je prends la météo et elle est bonne. Et donc, je m'en vais. Je décide de m'en aller. Donc, j'ai 2800 km à parcourir. Donc ça équivaut à 3 fois Paris-Nice. Il pleut, il se met à pleuvoir en plein dans le chenal des Gambiers. C'est pas grave. J'ai ma carte numérique là sur mon téléphone, donc je suis la carte. Je sors de l'atoll et me voilà partie. Je sais pas pour combien de jours. J'ai une joie en moi. Je me sens joyeuse d'essayer, de tenter ça. Je sens que je peux le faire. Alors, la première nuit, ce qui m'arrive, c'est que j'avais amarré le Ginnaker sur le pont et j'avais mal calculé un peu les vagues et tout. Et une petite bourrasque de vent, etc. Pendant la nuit, le Ginnaker tombe à l'eau. Et je me rends compte le lendemain matin, je vois quelque chose dans l'eau traîner. Je dis, c'est quoi ça? Et là, je me rends compte que c'est la voile qui est dans l'eau. Donc, j'arrive à la récupérer et elle est un petit peu trouée. Mais pas méchant. Comme elle est légère, je me dis, c'est pas grave, j'ai ma machine à coudre, je vais la réparer. Donc je la mets de côté, je me dis, dès que j'ai le temps, je me fais une petite séance couture, dès que la mer est calme, et je continue. Voilà. Donc par contre, j'ai une filière, c'est-à-dire une protection sur le côté qui a cassé, à cause du poids de la voile qui est tombée. J'ai cassé la filière. Bon, bah, c'est pas bien méchant, hein. De toute façon, j'évite d'être sur le pont toute seule. Et puis à chaque fois que je vais sur le pont, je m'attache, hein, bien évidemment. Je continue. Une journée, 2 journées, 3 journées, direction sud-est. Il y a de l'orage la nuit. Donc la nuit, je vois des éclairs derrière moi. Je commence à prendre peur un peu aux orages. Parce que ben, mon bateau, il est en aluminium. J'ai un mât en aluminium en plein milieu d'une flaque d'eau. Donc je vous laisse imaginer si l'orage s'approche de moi. Donc là, je suis pas très rassurée. Ça rassure jamais les navigateurs, un orage en pleine mer. Mais ça va, ils restent au niveau des toits motos, donc ils restent derrière moi. Je m'en éloigne de plus en plus. Je les entends, ça gronde. Je vois les éclairs, mais je m'en éloigne. Donc je continue. Et je pars avec mon régime de banane et c'est un petit peu la seule verdure que j'ai avec moi. Et sinon, bah, c'est des conserves, c'est de la farine, tu peux faire des crêpes si tu veux. Pas mal de gâteaux aussi, de biscuits. Ça, c'est le réconfort pour quand je peux pas m'alimenter, quand je peux pas descendre faire la cuisine. Je peux au moins manger des biscuits, des choses qui me font tenir, hein, c'est au moins du sucre. Et puis je vois les îles Pitcairn passer les unes après les autres. Donc en fait, c'est à 3 jours de navigation des Gambiers, Pitcairn. Donc rapidement, je passe Pitcairn, et puis rapidement, je passe toutes les petites îles inhabitées, parce que Pitcairn, c'est un archipel, donc il y a Pitcairn, l'île principale, et les îles inhabitées autour. Je les passe. J'avais pris contact avec eux, et ils m'avaient dit, Pitcairn, que je ne pouvais pas m'arrêter à cause du Covid, c'était fermé. Donc là, on me dit, si tu veux, tu peux mettre l'ancre et te reposer autant de temps que tu veux, mais tu pourras pas descendre à terre. Donc moi, je me dis, le vent est bon, ça avance, j'ai un bon cap, je continue. Donc je mets une semaine à peu près à traverser tout l'archipel des Pitcairn. Et au bout d'une semaine, le vent change. Et là, je me retrouve avec un vent plein est. Donc là, j'ai le vent de face. Ça, c'est pas bien du tout parce que moi, je veux aller à l'est. Donc c'est ça ma difficulté, c'est ça mon challenge. Tout le long du périple, j'envoie un message à mes parents. Je leur donne ma position, ma vitesse et à Nano aussi. Et lui, en retour, me donne la météo.
Yo no podía guiar, lo guiaron más gente de acá. La gente de los barcos, amigos de ella, la guiaron dándole información. Yo por mi parte, yo tenía amigos allá que navegaban, aunque yo no sabía, yo iba a pedirles ayuda y ellos me daban un número. Dile que vaya sur 4895. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Igual yo tenía un código para enviarle mensajes por teléfono satelital y le mandaba esto que me daban los amigos, y Apolín me daba mil gracias. Yo no lo entendía, pero eran coordenadas que salvaron la navegación, porque ella no tenía nada como ver. Entonces, entre que yo le enviaba información, la gente de acá también le enviaba información, así pudo lograr llegar hasta allá, arriba.
Donc je sais pas quelle stratégie je veux adopter. Je sais que je vais essayer, je sais pas par quelle technique je vais y arriver. Et d'ailleurs, j'ose pas en parler parce que tous les gens me disent, les marins là qui sont autour de moi me disent, mais comment tu vas faire? C'est pas possible, il faut que tu ailles au sud, tu es toute seule, c'est pas des navigations qui se font seules, faut que tu partes au moins à trois, faut au moins que tu trouves deux équipiers. Et moi, je dis, mais non, mais moi, j'y vais seule. Donc, à ce moment-là, quand le vent passe est, j'ai pas vraiment de véritable option. La seule option que j'ai, c'est d'aller au nord. Parce que au sud, il n'y a pas de vent. À ce moment-là, il y a une espèce de ceinture où il n'y a pas de vent. Et au nord, plus je vais au nord, et plus ils annoncent du vent. Donc, mon contact météo, qui est à Tahiti, donc là, il me dit, va au nord. Et il me donne pas plus de détails. Il me dit, au sud, il n'y a rien, il n'y a pas de vent, va au nord. Oh, alors moi, je vais au nord. Et là, le vent est de plus en plus fort au nord. Je suis toute seule là-dedans, je prie, hein, je vous le cache pas. Hein, quand on est, je pense qu'il y a très peu de marins dans ces cas-là qui font pas le signe de croix. Hein. Quand on est tout seul au milieu de nulle part et que finalement, notre destin, il est remis à l'océan. Et au ciel, à la météo, il faut avoir la foi. Moi, je pense qu'il faut y croire. Il ne faut pas se poser la question, il faut y croire. Quand je suis en mer comme ça, toute seule, je ne peux que croire, hein, ou au moins je ne peux que demander une protection. Voilà. Et de toute façon, quand on est seul, au bout de quelques jours, qu'est-ce qui se passe? On parle. En fait, on parle à notre bateau. S'il y a des animaux qui passent, des dauphins, je ne sais quoi, on leur parle. On est content, on parle à la nature, quelque sorte. On ne devient pas fou. Hein. Et au final, on ne se sent pas seul. Les jours passent, la routine s'installe et j'ai mon quotidien qui s'installe avec cette météo qui devient de plus en plus dure, c'est-à-dire que j'essaye de gérer mon sommeil, mes repas, il faut que j'arrive à m'alimenter, il faut que j'arrive à dormir. Quand je vois qu'il y a un gros nuage, ok, je suis là, je suis présente, je suis dans mon cockpit, j'ai ma veste de car, je m'habille, je suis au milieu du Pacifique, mais en fait il fait froid, enfin... Il faut que se couvrir quand même hein, de ce vent et de cette pluie, de cette humidité. Et à un moment donné, quand je sens que, que c'est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros nuages noirs à l'horizon, je peux m'autoriser de dormir et de manger. Donc bah, d'abord, je mange. Et le plus vite possible, c'est-à-dire que je me prépare un petit truc vite fait, mais quand même, je mange bien, j'ai faim, donc je mange bien, il faut que j'ai d'énergie. Et après, bah, je me repose le plus que je peux. Des fois, je m'autorise une heure, deux heures de sommeil, j'avoue, hein, c'est pas bien. Normalement, quand on est seul, on doit au moins faire une vigie tous les quarts d'heure pour voir aux alentours s'il y a des bateaux, mais là, il n'y a personne autour de moi. Donc je me dis, bon, ben moi je dors, hein, j'ai besoin de dormir. Donc quand je le sens, quand c'est possible, je vais même dans ma cabine. J'arrive à dormir une heure, deux heures. Et je me rends compte que chaque bruit qui est suspect, chaque bruit qui change un petit peu, me réveille. Dès qu'il y a un tout petit bruit qui change sur mon bateau, je le sens. Et mon inconscient, comme ça, me réveille. Et là, je sors la tête dehors, je regarde, tout va bien, ok, tant mieux, je me rendors. Et voilà, mais ça se passe comme ça, et ça dure des jours, et c'est la même routine tous les jours. Je mets 26 jours à faire des allers-retours, hein. Donc j'ai tiré des bords, et à un moment donné, j'avais l'impression d'aller au Galapagos, de remonter au Galapagos, sur 800 000 nautiques, donc sur 1600 km, je suis remontée en direction des Galapagos. Et après, j'ai fait un dernier bord de 700 000 nautiques, qui m'a emmené directement voilà, sur l'île de Pâques, le dernier long bord, enfin. Et là, c'était une joie, parce que chaque jour, j'envoyais mes messages à Nano, ils étaient de plus en plus... Bah, c'était des messages pires que des lettres d'amour, quoi, hein, les messages qu'on s'envoyait.
Estaba esperando, no podía hacer nada. ¿Qué voy a hacer? No podía hacer nada, pero... Uno intenta ayudar, intenta hacer mil cosas. Yo iba a la Armada de Chile a pedir ayuda, a todos lados a pedir ayuda. Esos días de espera fueron difíciles porque entre no tener noción, entre no saber. Y también lo otro es que la isla es muy pequeña. Se puede pasar fácilmente, ¿sí? Uno puede pasar y no verla. Es muy pequeño. No hay palmera, no hay árboles que uno pueda ver desde lejos.
Alors là, les trois derniers jours, il y avait la pleine lune. Oh, c'était la pleine lune. Et là, je sentais qu'il me restait plus que trois jours à naviguer. Il me restait quoi? Il me restait moins de 500 nautiques, c'est rien. Bah là, maintenant, il faut se préparer parce que bientôt, je ne vais plus être seule sur mon bateau. Et j'étais habituée à être seule. Finalement, là, je me dis, mais mince, mais j'ai ma petite routine. Eh ben, ça se prépare mentalement. Je sais que bientôt, c'est fini. Je ne serai plus jamais seule. À un moment donné, je vois la Terre. Mais cette Terre, elle m'a paru mais tellement loin d'arriver à l'île de Pâques et de voir, j'en ai des frissons encore, de voir cette île-là, ce petit bout de terre, mais petit. Je sens cette solitude de cette île qui est tellement isolée. C'est l'île habitée la plus isolée au monde. Et moi, je me suis sentie tellement isolée ces derniers mois, ben, j'ai l'impression de la comprendre. Je m'approche d'elle petit à petit, je la vois de plus en plus grande et j'arrive en fin de journée. Et j'étais tellement seule pendant tellement longtemps, donc pendant 26 jours, hein, c'est mon 26e jour là, que j'en oublie d'allumer ma radio. Donc il y a la marina là qui m'appelle à la VHF, mais moi j'entends rien, donc je réponds pas. Et je suis un petit peu dans ma bulle, je profite de cet instant, je distingue les moai, je les vois au loin et je déguste. Donc je vise le village principal, j'arrive et là, il y a la marina qui arrive. Voilà, les officiers de la marina qui arrivent et qui me disent « Oui, la VHF, nanana, t'as pas mis ta VHF ?» Ouh là là, je me dis « Ah oui, c'est vrai, je suis plus toute seule, donc j'allume ma radio. » Et là, on prend contact par radio et là, ils me disent « Il va falloir prendre une bouée. » Il va falloir prendre une bouée et tu pourras pas descendre à terre et Nano pourra pas venir te voir parce que il faut faire une journée de confinement.
Los gobiernos no tenían noción de nada. Nadie tenía una idea de nada. Entonces yo dije, voy a agarrar mi box de alimento, me voy a ir para arriba y me voy a quedar en cuarentena con ella.
Donc je le vois, il est dans le bateau, dans un autre bateau, un petit bateau de pêcheur, un bateau de son ami.
Pero me dicen que no podía subirme, no podía tener contacto con ella, tenía que esperar un día. Yo les pregunté que por qué, hay algo especial, algún remedio especial que van a ver. Y me dicen, no, es por un tema de papeles. Después de haber esperado 20, 30 días, casi 30 días, yo vi a esta mujer que estaba ahí, después de una navegación que se veía que era fuerte, estaba cansada, todo, y tenía que estar sola ahí. Yo dije, no, yo voy a subir. Y la Armada de Chile se quedó ahí a vigilar que no subiera, que no tuviera contacto. Igual, lo hice en la noche. En la noche esperé hasta que fuera de noche. Y con un amigo que me estaba ayudando, él estaba en el bote, hice que me que hiciera como que sostuviera una chaqueta, como que yo estuviera al lado de él, y le di una señal y me tiré al agua, y me hundí y fui por abajo, por debajo del agua, mientras él se iba a toda velocidad para que la Armada lo siguiera, y se fueron siguiendo a él, y yo nadé por abajo en la noche y monté al bateau.
Et donc, le voilà à sauter à l'eau, il saute à l'eau, il remonte à bord et là on se retrouve. Donc forcément, on se retrouve en cachette et très tôt le matin, il me dit je partirai à 4h du mat avant que la marina arrive, avant que le jour se lève. Les retrouvailles c'était intense, hein, forcément, après tout ce temps séparés. On était vraiment très, très, très heureux de se retrouver. C'était quelque chose de magique et incroyable à la fois. Et on l'a vécu à 100%. On se sent à ce moment-là dans un état où tout est possible. C'est-à-dire qu'on a vaincu toutes les frontières. On a le sentiment d'avoir réussi à braver tout ça.
Y el primer día, menos mal que me quedé. Porque nos obligaron, la obligaron a amarrarse a una boya que en la noche se soltó y si hubiera estado sola, se va a la tierra. Menos mal que me quedé y hicimos una maniobra para poder amarrarla de nuevo el bote. Y se salvó. Fue extremo. Después tuve que llamar a un primo que viniera a las 5 de la mañana, que pasara por al lado del bote y yo me tiré un ¡pac! Me tiré del bote arriba y ¡buah! Nos fuimos porque estaba prohibido.
Donc Nano, à 4h du mat, paf, le jour se lève, son ami qui vient le chercher rapidement, il monte à bord, il s'en va, et moi, vers peut-être 8h, quelque chose comme ça, j'ai tout l'artillerie lourde, c'est-à-dire 12 personnes qui montent à bord, et là j'ai donc la douane, l'immigration, la police aux frontières, les sanitaires, donc pour voir si j'ai pas le Covid, me prennent ma température, et voilà, et ils regardent avec une GoPro, ils plongent sous le bateau, ils vont voir si on n'est pas ancré sur le corail. Ils me font signer plein de papiers, d'immigration, et voilà. Alors, je ne suis pas encore autorisée à débarquer, parce que, en fait, à l'île de Pâques, il ne faut jamais laisser le bateau seul. C'est la consigne, mais moi, comme je suis toute seule, si je veux aller à terre, je suis obligée de laisser le bateau seul. Donc, les premiers jours, Nano m'a rejoint, hein, on n'a pas vraiment descendu du bateau. Et puis après, au fur et à mesure des jours, on s'est autorisé à descendre à terre.
Todos se rieron al principio. Si tú le dices a tu hermano o a cualquier persona de tu familia que tú estás en el medio del océano y que va a venir una mujer a buscarte, la imagen que se crea dentro de la cabeza de esa persona es, uno, tiene que ser una mujer fuerte. Dos, tiene que ser grande. Porque ¿cómo va a ser una navegación así una mujer normal? No. Entonces todos empezaron a reírse, dijeron, oh, ya, allá debe venir una mujer muy grande, muy fuerte a buscarte, bro, genial. Se reían. Pero cuando llegó y vieron a Pauline pesa 56 kilos, toda fina. Yo le dije, ahí está. La mujer fuerte que vino a buscarme fue una lección para todos. Una lección. La fortaleza va por dentro. No se necesita ser gigante para ser fuerte.
Alors, on est resté 3 mois à l'île de Pâques, parce que je suis arrivée fin janvier, donc, et ça nous a permis de profiter, donc, février, mars, avril, c'est l'été là-bas, donc on a bien profité, même si c'est l'été, il y a quand même des petits épisodes de tempête qui peuvent arriver, donc il y a eu, par exemple, des moments où pendant 3 semaines, on pouvait être tranquille à descendre à terre tous les jours, et à rester face au village, donc ce qui était pratique. Et par contre, il y a eu 3 semaines où on ne pouvait pas du tout descendre à terre. Voilà.
Entonces fue todo como entre nuestro amor creció entre puras prohibiciones, entre un mundo prohibido. Todo estaba prohibido. Desde el primer día tuvo todo increíble, todo. Desde el primer día, en el momento que ella llegó. De ahí, en ese tiempo que estuvimos allá, en esos 3 meses que estuvimos allá, obviamente, ahí estuvo embarazada, se embarazó la Polín. Y eso también empezó a mover diferente la navegación. Después de que se embarazó, fue como un timing. Todo era más rápido, todo era más fuerte, había que ser más seguro. Porque venía un bebé, pues, ya no era una cosa de que... Era yo que no sabía navegar, sino que era yo que no sabía navegar y viene un bebé también. Entonces, como que las alarmas del cuerpo, el cuerpo tiene alarma, se activaron todas. Ta, 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 ta.
Il a fallu que je fasse confiance à Nano. Pour le retour, parce que on voulait pas, hein, le but c'était de pas rester à l'île de Pâques, on pouvait pas sortir le bateau de l'eau, il y a pas moyen de sortir le bateau de l'eau là-bas. Alors Nano, lui, il avait jamais fait de bateau de sa vie, du coup, hein. C'était un projet qu'on avait ensemble, mais on n'avait jamais encore eu l'occasion de s'entraîner. Donc là, je l'ai complètement mis dans le bain dès le début, hein, et il est rentré à l'école dure dès le début. Donc pour commencer, on s'est fait un petit tour de l'île déjà, tous les deux, comme ça. On a fait le tour de l'île de Pâques, ça a duré une semaine. Et ensuite, on est allé faire une expédition à Mutumutiro Hiva. C'est un petit motu qui est à 3 jours de navigation de l'île de Pâques en direction du Chili, donc encore plus à l'est.
Todo el mundo que yo hablo, por lo menos montó una plancha a voile. Yo no tenía ni una noción de andar en barco, ninguna noción de cómo va un barco con vela, cómo viaja, cómo se mueve. No tenía noción de nada. Y yo vi a la Polín que desde que yo me monté en el barco, ella estaba también asustada porque quería que yo supiera cosas porque, para ayudarle. Porque también una cosa es llegar de aquí hasta Rapa Nui, pero también había que volver. Entonces ella, yo lo veía en sus ojos que ella quería que volviéramos bien. Entonces trataba de enseñarme. Era mucha información para una persona como yo que nunca monté un bateau. Era mucha información así. Información cómo navegar, información cómo estar en un barco. El mismo barco que te enseña que me empezaba a golpear por todas partes. Me aplasté todos los dedos, perdí las uñas, perdí todo. El aprendizaje era desde el lado de Apolín como capitán y desde el lado del barco, que el barco también me estaba dando fuerte. También era súper fuerte porque el barco en Rapa Nui nunca está tranquilo, jamás. Cuando el mar está tranquilo, el barco se mueve como que estuviera mal, pero nunca estuvo tranquilo, entonces... Eso para mí también, un barco en movimiento todo el rato, te enseña súper rápido. Si tú no estás en ese movimiento, pam, pam, te va a golpear mucho. Entonces eso también me enseñó, me hizo aprender rápido a estar en un barco, eso.
À un moment donné, il a fallu quitter Rapa Nui, il a fallu quitter l'île. Donc j'avoue qu'on a traîné un peu pour quitter l'île, on traîne un peu, on prend notre temps, parce que on veut profiter de la famille aussi, on sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Nano, il hésite aussi un peu, il hésite pas à monter à bord, mais quand même, je pense qu'il appréhende, c'est sa première grande navigation, il sait pas trop à quoi s'attendre, il sait pas trop ce qu'il faut qu'il emmène comme chose, il me demande, mais j'ai besoin de quoi pour remonter, pour naviguer, qu'est-ce que je prends?
Yo creo que yo soy la primera persona que se monta en un barco sin saber nada y se va a una navegación de 30 días. Está bien que tu mujer vino a buscarte, se arriesgó todo, pero ahora se van a arriesgar con un bebé. Entonces fue más fuerte la presión, toda la familia. No, no se pueden ir con un bebé. Todo el mundo te dice, así. Tú vas a caer, pero tienes que ser fuerte. Una persona me dio fortaleza, una abuela que tengo viva todavía, hermana de la madre de mi mamá. Ella fue la única persona que me mira, un día que fui a visitarla, me mira y me dice, olvídate de todo ello, anda. Todos ustedes tienen miedo, son todos jóvenes. Ella me dice que me voy, yo voy a escuchar la experiencia. Así que decidimos ya empezar a irnos. Y ya después era la familia en contra. El gobierno en contra. El gobierno también no quería después que nos fuéramos, porque estaba cerrado el país, mi país estaba cerrado, yo no podía salir de un país cerrado. O sea, como Chile, Chile estaba cerrado. Yo intenté todo para que ellos me dicen, uy, anda, y no. Yo le dije a la Pauline, vamos a subir al bateau y nos vamos.
Donc là, toute la famille participe. Ils nous donnent énormément de fruits. On part, je ne sais pas, avec peut-être 80, 100 avocats. On a tellement, c'est la saison des avocats là-bas. Et on a aussi des tomates, des concombres. On va chercher des patates douces, énormément de bananes. On a, je crois, 7 régimes de bananes. Donc on est fin avril 2021. Donc là, il y a une tempête qui arrive. Et on aurait déjà dû partir depuis le début du mois, début avril, pour, si on veut avoir une bonne météo. Donc là, on a quelque chose qui nous arrive dessus, une tempête, et il faut qu'on parte, on n'a pas le choix. On ne peut pas sortir le bateau de l'eau, on ne peut plus rester proche des côtes. Ça devient dangereux, en fait, avec un bateau, d'être si proche des côtes.
Venía un frente de mal tiempo, venía una tormenta gigante. Por eso, otra presión más que yo tenía para salir. Pero igual yo sentía, eso es importante, cuando tú sabes que lo puedes hacer, hay que hacerlo.
Et c'est comme ça qu'on a quitté l'île de Pâques, un peu en urgence, une petite signature, un petit tampon, et c'est parti.
Y cuando nos fuimos, era como siempre un día antes de la tormenta y un día tranquilo, muy lindo. Nos fuimos ese día. Y era mi primer día de navegación y la policía me dice, tienes que ir a descansar porque después te toca a ti la guardia. Y cuando me golpea la policía para que despierte, yo abro los ojos, salgo y afuera era el infierno, era otro lugar. Y me dice, tranquilo, ven, sal, te toca. Tienes que quedarte aquí y ver que no pasen barco y todo. Entonces fue un primer día impactante, para mí fue fuerte, no lo podía asimilar bien. Y cuando salí, cuando salí a ver a la Pauline se veía toda fina, toda pequeña, y la tormenta se veía gigante. Fue como un aviso al tiro me dijeron, hey, si tú estás bien ahora, después todo va a estar bien.
Là, à ce moment-là, on pense partir pour 2 semaines. Et en réalité, on met 30 jours. 30 jours pour aller retrouver les Gambiers, l'île, la dernière île que j'avais quittée, les Gambiers. Et on arrive aux Gambiers. Tout le monde nous attendait, tout le monde était au courant de notre histoire, tout le monde était au courant du Rapa Nui qui allait arriver bientôt. Et tout le monde nous attendait en quelque sorte.
Después de ese día de tormenta, fue como que yo abrí una puerta. Y abrí una puerta y esa puerta se abrió y sentí todo el tiempo. Yo sentía como que estaba acompañado, como que mis ancestros, mis tupunas. Un día llegó un pescado gigante, gigante como una albacora. Yo, mi lado de cazador, yo lo quería cazar, pero mi otro lado maoí de respetar la naturaleza también y sentirla, también estaba ahí presente. Y fue más fuerte ese lado. Yo lo vi cómo se puso de lado, cómo me miraba. Suena como algo de película, pero fue mi película que yo viví. Viví eso, lo viví. Sentí que mis maos y mis tupunas estuvieron conmigo todo el tiempo, acompañándome. Jamás me sentí solo. Fue súper fuerte eso también, porque soy polinésico, soy maoí. Nosotros tenemos una conexión con el mar.
Et Riva, comme ils disent les Polynésiens, c'est Riva Nui, c'est la mer qui nous a fait nous retrouver. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fort dans notre histoire. Les Polynésiens, à l'époque, ancestralement, pour eux, la mer, en fait, c'est comme une partie de la terre. Il n'y a pas de vide, c'est la connexion. C'est la mer qui fait la connexion entre la terre et c'est un tout. C'est pas un vide, la mer, c'est un plein avec tout son écosystème. Donc le fait que moi, j'arrive par la mer à Rapa Nui pour retrouver Nano, ça a été vu aussi par les gens de Rapa Nui comme quelque chose de fort, de vraiment très symbolique, vraiment très fort.
Tenemos un niño precioso. Hemos estado representando bien nuestra cultura. Siempre estamos ahí fuerte. Y mi hijo va a cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque él va a traer de vuelta la navegación a mi isla.
Y voilà, on va en faire un petit navigateur de ce bébé-là. Ce sera un marin. Il s'appelle Haka Aratupuna Otetaimana Maori. Donc, ce qui veut dire le descendant des ancêtres du triangle maori. Et c'est déjà un nom assez long, donc il n'a pas de nom français, c'est son prénom, c'est ça. Et voilà, donc lui, il symbolise un petit peu tout ça. Il symbolise cette connexion entre les îles, c'est un descendant des ancêtres du triangle, donc tous les ancêtres réunis de toutes les îles du triangle polynésien. Son petit nom, c'est Haka. On l'appelle Haka au quotidien. Et lui, on compte bien le faire naviguer aux trois coins du triangle polynésien. Notre but, en fait, ça va être qu'il connecte ces îles par la mer. Ce sont les vents qui nous guideront.
Cet épisode de Passage a été tourné par Stéphanie Thomas. Clémence Relia était à la réalisation et au mix, et le montage a été fait par Capucine Rouault et Gautam Shukla. À très vite.
Bonjour, c'est Zoé de Louis, et j'ai découvert un nouveau podcast dont j'aimerais vous parler. Il s'agit du podcast Les Voix du Crime, produit par RTL. En tant que grande fan de faits divers, j'ai adoré ces enquêtes judiciaires racontées par des avocats, enquêteurs, proches des victimes, suspects et même coupables. Bref, si vous cherchez un bon podcast d'affaires, écoutez Les Voix du Crime. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.